l'expert comptable, il aura toujours des problèmes à résoudre pour les entrepreneurs. Cette phrase, elle était assez forte parce que, en fait, les problèmes qu'un entrepreneur rencontre, le champ des possibles, il est assez incroyable, en fait.
Un des trucs qu'on a bien fait avec Pennylen versus notre première boîte, c'est de passer énormément de temps au début à essayer de comprendre le marché.
Si l'entrepreneur, il fait bien ses devoirs, c'est surtout ça qui fait gagner du temps au cabinet.
Ton client, quand il va venir la première fois dans l'outil, soit il va dire « Ah ouais, ça m'amène de la valeur et je vais commencer à l'utiliser et ça va faire gagner la productivité au cabinet », soit il va jamais revenir.
Avant de démarrer l'épisode, grosse info pour ceux qui passent ou qui veulent passer le DCG, Diplôme de Comptabilité et Gestion. On vient de lancer aux éditions d'Uno un livre qui s'appelle Mon DCG Validé, le premier guide pour vous aider à valider votre diplôme, que vous soyez en initial, en alternance ou en candidat libre. On a mis à l'intérieur de ce bouquin plus de 10 ans d'expérience, plus de 100 heures de formation à se former avec les meilleurs spécialistes en techniques d'apprentissage, mémorisation. On vous donne le mode d'emploi pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Nouvelle masterclass. Et la masterclass, c'est sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est un peu sur cette évolution de l'industrie de la comptabilité et gestion. Et pour réaliser cet épisode, je suis très heureux d'accueillir Arthur Valère, CEO de Pennylen. J'ai pas envie de dire qu'on présente plus, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, donc on pourra un peu pitcher quelle est cette solution. Pennylen, acteur et un logiciel tout en un qui va aider à la fois les dirigeants d'entreprise et cabinet d'expertise comptable à faire de la production comptable pour leurs clients. En chiffres, Pennylen, vous êtes 400 personnes. Si ma mémoire est bonne, vous avez été créé depuis 2020, donc ça fait à peu près 4 ans ou presque un petit peu plus de 4 ans. Vous avez 150 000 clients, ou en tout cas personnes qui utilisent la solution Pennylen. Depuis le départ, vous avez levé à peu près 142 millions. Toi, Arthur, tu n'es pas à ton coup d'essai. Tu avais déjà créé une boîte qui s'appelait Price Match qui a été rachetée chez Booking. Bienvenue sur le podcast Les Guides des Chiffres, Arthur.
Merci Nicolas de m'accueillir aujourd'hui.
Eh bien, écoute, on avait déjà fait une première version il y a très longtemps au début du format et donc tu étais le deuxième invité. On fait un Reddit aujourd'hui. Déjà, j'aimerais savoir un petit peu, est-ce que tu peux rapidement pitcher la solution Pennylen avec tes propres mots pour que les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas puissent savoir à quoi, quels sont les problèmes que vous résolvez vous.
Très bien. Bah, du coup, nous, le point de départ, c'était juste de se dire que tu as historiquement sur le marché des outils, des logiciels pour les experts comptables qui sont très complets, très profonds, qui permettent de faire la saisie, la révision, la déclaration, etc. Mais que souvent, les outils utilisés par les clients des cabinets d'expertise comptable pour faire leur gestion étaient des outils différents. Et du coup, il y avait une sorte de silo entre les données de gestion du client et les données de compta du cabinet. Et que ce silo, il créait de l'inefficacité. Ça faisait perdre du temps aux deux parties. Le cabinet, il fallait qu'il récupère la donnée et qu'il court un peu derrière cette donnée-là. Qui avait du travail parfois du coup de pas très intéressant et surtout que quand le cabinet y bossait c'était avant tout pour soit faire de la déclaration fiscale ensuite faire de la restitution à son client mais que du coup la donnée qu'il avait était pas forcément fraîche etc. Et donc nous le problème qu'on s'est donné pour mission de résoudre c'est de construire une source de vérité unique finance et compta pour les cabinets et pour leurs clients donc d'aider les cabinets d'expertise comptable à équiper leurs clients d'un outil de gestion. Le client, il faisait déjà sa gestion avant. L'idée, c'est juste que ce soit plus simple pour lui de le faire maintenant grâce à un outil tout en un qui inclut notamment la partie achat, la partie vente, la partie trésor et un compte pro. Et que quand il fait sa gestion, le client, ça vienne sous le capot faire de la compta et que quand le cabinet fait de la compta, ça vienne sous le capot faire de la gestion. C'est ça tout l'objectif de Pennylen.
Donc, avant de rebondir et repartir là-dessus, je voudrais quand même parler un peu d'une expérience que tu as vécue. Donc, toi, tu avais créé une boîte qui s'appelait Price Match, qui a été rachetée par Booking. J'aimerais savoir quels sont les grands learnings que toi, tu as appris en rentrant dans une boîte comme celle-ci, parce que vous avez créé une boîte d'un certain niveau. Et là, vous rentrez dans une entreprise, j'ai regardé un peu les chiffres juste avant de préparer l'épisode. En 2022, c'est 17 milliards, je crois, de revenus. Mais enfin, eux, ils génèrent plus de transactions parce qu'ils font les réservations d'hôtels. Ça t'a appris quoi, toi, de rentrer dans cet univers-là?
Alors, donc nous, quand on a vendu notre première boîte, on a déménagé à Amsterdam, parce que Booking, c'est hollandais, c'est le plus gros acteur e-commerce européen. Nous, ce que ça nous a appris, c'est surtout sur la culture de boîte et l'organisation de la boîte. Quand j'accueille tous les mois les nouveaux venus chez Pennylen, ce que je leur dis toujours, c'est que 80% de la culture de boîte Pennylen est inspirée de la culture de boîte Booking. Premièrement, sur le focus sur l'utilisateur. mettre toujours l'utilisateur au centre de tout et ne jamais perdre ça. Deuxièmement, c'est d'organiser la boîte en plein de toutes petites équipes. Moi, ce que j'ai vu chez Booking, ce qui m'a impressionné, c'était l'agilité qu'ils avaient, malgré la taille de boîte, à peu près 18 000 salariés à l'époque. Et pour moi, le secret de ça, c'est que c'est plein de petites équipes qui sont chacune en charge d'un sujet bien précis. Et pour que ça marche, c'est facile à dire sur le papier, il faut qu'il y ait une stratégie d'entreprise qui soit super claire, super transparente et bien comprise de toutes les équipes. Pour qu'elles, même si elles rament chacune de leur côté, elles rament quand même toutes plus ou moins dans la même direction, quoi. Donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en place également. Avec, il faut quand même à un moment qu'il y ait un pilote dans l'avion. Et chez nous, comme chez Booking, le pilote dans l'avion, c'est le product manager. À la fin de la journée, s'il faut décider d'aller à gauche ou à droite, c'est le product manager qui décide ça. Dernier point, un des trucs qu'on a appris aussi là-bas, c'est que manager, c'est un job. Et nous, on trouve qu'en France, trop souvent, on dit aux gens « Ah, t'es bon dans ton job, la prochaine étape, c'est d'être manager si tu veux progresser. » Et nous, on essaie de faire en sorte que tu puisses progresser dans ta carrière, soit en tant que contributeur individuel, soit en tant que people manager, mais que quel que soit le chemin que tu choisisses, tu sois reconnu de la même façon, que tu aies la même progression en termes de salaire, etc. C'est un peu les trois grandes choses. Alors, peut-être le quatrième, c'est être extrêmement data-driven. C'est ce qui a fait le succès de Booking. Donc concrètement, Booking, ce qui a fait leur succès, c'est qu'ils arrivent à mieux convertir quelqu'un qui vient sur leur site que leur concurrent. Leur concurrent, c'est Expedia, etc. Et comme ils convertissent mieux quelqu'un qui vient sur leur site, ça fait qu'ils peuvent payer plus cher quand ils enchérissent sur Google. C'est le deuxième plus gros client de Google dans le monde. Et donc tout l'enjeu, c'est ça. Et pour faire ça, ils ont mis en place une infrastructure qui permet de tout mesurer et de tout tester. En permanence, ils testent. Si tu vas sur Booking à un moment donné, tu as à peu près 1000, ce qu'on appelle A-B tests, qui tournent en parallèle. Un A-B test, c'est-à-dire que sur un micro truc du site, il y a une équipe qui est en train de tester une version A versus une version B versus éventuellement une version C. Et en permanence, ils font évoluer. Toi, tu le vois pas. Mais à chaque fois que tu vas toi sur le site, il y a 1000 pièces qui sont lancées en l'air. Et on décide, OK, Nicolas, on va lui montrer pour ce micro-test-là la version A, pour ce micro-test la version B. Et on mesure indépendamment ce qui convertit le mieux. Et donc, nous, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas transactionnel. On n'est pas en train de vendre des chambres d'hôtel. Nos métriques, elles sont moins nerveuses qu'il a réservé, il n'a pas réservé. Mais par contre, on a mis en place depuis le début une grosse infrastructure de données qui permet à n'importe qui chez nous dans la boîte de bien mesurer si ce qu'il est en train de faire va dans la bonne direction ou pas.
Et de te confronter à des boîtes comme ça qui sont leaders européens, toi même d'un point de vue personnel, est-ce que ça a un peu, je sais pas, déverrouillé un espèce de plafond de verre que tu pouvais peut-être naturellement avoir? Toi, t'as appris quoi même personnellement au-delà de ces skills qu'on peut donner là ici?
Ouais, je pense que c'est inconscient, mais je pense que forcément tu te dis on peut être plus ambitieux. Tu vois, Booking, moi j'aime bien toujours raconter l'histoire. Booking, ça a été racheté par des Américains en 2005. Qui ont dit on va en faire notre petite filiale européenne, quoi. Et aujourd'hui, Booking, ça pèse 95% du groupe. Et c'est parce que les Américains ont laissé les Hollandais indépendants et que les Hollandais ont surperformé largement, qui sont devenus le leader mondial qui est Booking. Donc ouais, non, je pense que ça nous a appris peut-être à avoir plus d'ambition et ça nous a appris, je pense aussi, l'importance d'avoir les bonnes personnes et cette histoire de stratégie très, très claire, quoi. Après, moi, là-bas, j'ai fait du produit, product management, et ça, j'ai appris pas mal de techniques aussi de ça.
Tu mentionnes ce sujet qui est l'évolution dans une entreprise, c'est soit on devient manager, ou soit justement on crée une espèce de verticale où on devient encore plus expert dans un sujet. Comment vous arrivez justement à déceler ça chez Pennylane, et comment vous arrivez à créer finalement plusieurs chemins possibles pour une personne ou plusieurs typologies de personnes?
En gros, concrètement, on prend chaque rôle dans la boîte. On essaie de s'assurer que pour chaque rôle, tu as les deux chemins. Donc, c'est créer une organisation avec des chemins de carrière. C'est un job que font nos équipes RH. Et encore une fois, on s'impose à nous-mêmes qu'à chaque fois, tu as les deux chemins, quoi. C'est ça le premier truc important. Ensuite, il y a comment on forme les gens, comment on les aide à prendre un chemin ou l'autre. Et là, c'est une question d'investissement, de volonté. Typiquement, du coup, on te dit, vu que si tu prends le manager, c'est un vrai chemin à proprement parler. Ton job premier, c'est d'être manager, c'est-à-dire qu'on s'assure que tu vas pas avoir trop de responsabilités de contributeur individuel, parce que ton job, c'est d'être manager, c'est-à-dire qu'on te forme à devenir manager. Tu vois, chez Booking, un manager, il avait à peu près 2-3 jours par trimestre de formation managériale. On n'en est pas là, parce qu'il faut qu'on aille plus vite, on ne peut pas se permettre ça encore, mais on s'assure que tous nos managers ont des formations entières qui durent plusieurs journées au début pour apprendre à devenir des meilleurs managers, etc.
Quoi. Ok, parlons un peu maintenant de la vision que toi tu portes sur le marché. Je pense que vous avez une attaque du marché qui était incroyable dès le début. Qu'est-ce qui vous a amené là-dessus? C'était quoi un peu votre vision du début? J'ai vu un post LinkedIn cette semaine que tu as posté sur, je sais pas, une tribune que tu avais fait il y a très longtemps, dans un journal ou dans un média en ligne, où tu parlais vraiment de cette vision un peu all-in-one, un outil, un espèce de all-in-one. C'était quoi votre vision aujourd'hui, enfin avant, et comment a-t-elle évolué? Est-ce que c'est toujours la même? Comment tu vois un peu ce marché? Enfin, parlons déjà de la vision et après de ton appréciation sur le marché, ou peut-être qu'on peut mixer les deux justement.
Alors, je dirais que notre vision est la même depuis le début. Un des trucs qu'on a bien fait avec Penylen versus notre première boîte, c'est de passer énormément de temps au début à essayer de comprendre le marché. Dans notre première boîte, on voulait juste monter une boîte. C'était ça l'objectif. Et on s'est plutôt demandé dans notre première boîte, qu'est-ce qu'on sait bien faire? On s'est dit, ok, on a appris à faire des algorithmes à l'école, du machine learning, on va faire une boîte qui fait des algorithmes pour prédire la demande et recommander les bons prix. Et on avait d'abord notre idée, et ensuite on a été voir des hôtels en leur disant, est-ce que ça t'intéresse que je fasse des algorithmes pour prédire la demande? Les hôtels, ils ont dit oui. Et du coup, on s'est dit, ok, ça valide qu'il y a un besoin. Mais on ne s'est pas demandé quel est le meilleur truc qu'on puisse faire pour les hôtels, quel est leur plus gros besoin. Et a posteriori, je pense moi que si je devais refaire ma première boîte Price Match, je ne ferais pas des algorithmes super compliqués. Je pense que le gros des hôtels, ils préféraient avoir un outil beaucoup plus simple qui juste le donne le prix de ses concurrents, mais par contre beaucoup plus simple à installer et moins cher. Et le gros du marché, il voulait plutôt ça qu'une plateforme super poussée. Donc si je devais refaire ma première boîte, j'aurais plutôt été voir plein d'hôtels au début, sans un biais, parce que j'avais déjà décidé que moi, ce que je voulais faire, c'était des algorithmes, et plutôt leur demander, c'est quoi t'as besoin, quoi? Plutôt que d'essayer de valider ce que moi, je pensais. Et c'est ce qu'on a fait pour Penylen. Pour le coup, on n'avait vraiment aucun avis en amont. J'ai vraiment fait plus d'une centaine de rendez-vous où j'avais vraiment rien à vendre ou rien à valider. Je voulais juste comprendre quel était le problème que je devais résoudre pour eux. Et quand j'ai fait ces rendez-vous-là, je pense qu'on a parlé sur le premier podcast, ce que les gens m'ont dit, c'était assez clair. La chance que j'ai eue, c'est ça qui m'a fait penser qu'il y avait un marché, c'est qu'à peu près tous les gens disaient la même chose. Ça, c'est quand même un bon signe, normalement. Et ce que tous les gens disaient, c'était toujours, ne touche pas à mon expert comptable, c'est mon médecin de famille, n'essaie pas de le remplacer, n'essaie pas de le robotiser, j'ai envie de garder mon médecin de famille, j'ai envie de pouvoir l'appeler et pas que de parler de compta avec lui ou avec elle. J'ai envie qu'il me conseille sur est-ce que je dois acheter ou louer, tiens, il y a le Covid, comment je dois faire, comment je prépare ma retraite, ma session, enfin. Donc, surtout, n'essaie pas de remplacer. En revanche, permets-moi de mieux bosser avec lui ou avec elle en nous fournissant tous les deux cette plateforme partagée qui permette de mieux collaborer. Et ça, c'est à la fois pour une TPE entre le dirigeant qui fait la gestion et son expert comptable, et à la fois pour la PME, entre le dirigeant, le comptable en interne dans l'entreprise et le cabinet qui est en révision. Plus tu montes, plus tu as d'interlocuteurs, entre guillemets, dans la chaîne. Mais en fait, c'est toujours le même enjeu. C'est comment on casse les silos entre la gestion, la finance, la compta. C'est ça vraiment le problème qu'il faut résoudre. C'est ça qu'on a entendu, nous, en tout cas, au début. Et du coup, les gens aussi, tu te rendais compte qu'ils avaient aujourd'hui une multitude d'outils. Quand on a réfléchi au début, on s'est dit, mais aujourd'hui, une grosse boîte, elle a un ERP ou elle a tout. Seulement, le problème, c'est que l'ERP, ça coûte soit trop cher à installer, soit c'est juste trop complexe. Tu vois, il n'y a pas un resto qui va mettre un ERP, quoi. Et donc, toute l'idée depuis le début, c'est comment on démocratise un peu pour les TPE, PME, ce que l'ERP a été pour les grosses boîtes. Comment on permet aux TPE, PME, et nous, ça nous tient à cœur parce qu'au final, en vrai, c'est ceux qui payent leurs impôts, qui créent des jobs localement. Comment eux, on leur permet de s'équiper d'outils qui font un peu le même job qu'un ERP fait pour une grosse boîte, avec la complexité additionnelle que du coup, tu ne fais pas tout seul, tu collabores avec un cabinet d'expertise comptable là où une grosse boîte, elle a plus qui est fait vraiment tout en interne. Et ces boîtes-là, on s'est dit assez vite que tu en as beaucoup, si tu es une petite boîte, qui veulent avoir tout au même endroit. Si tu crées un restaurant, t'as pas envie d'être DAF de ton restaurant. T'as envie d'être restaurateur et t'as envie que la finance, ça tourne, quoi. Et donc, si tu n'as pas envie d'être DAF de ton restaurant, idéalement, tu as envie que tous tes outils admin finance soient en un seul et même endroit, pour des raisons de simplicité, qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de données, et aussi pour des raisons de coût. Tu n'as pas envie de payer 10 outils, tu as envie d'en avoir un, quoi. Et donc, effectivement, depuis le début, on a cette vision qu'à terme, il faut que quelqu'un qui a des besoins raisonnables puisse tout faire dans PennyN. Ça ne veut pas dire qu'on prétend qu'on va tout faire pour tout le monde, loin de là. On en est bien conscient, il y a trop de complexité. Donc, on a une architecture très ouverte qui dit, encore une fois, si tu as des besoins raisonnables, tu peux tout faire chez nous. Par contre, si nous, on est trop limité dans un de tes besoins, tu peux aller connecter un outil best in class à PennyN nativement qui va te permettre de résoudre ce problème-là. C'est ça la vision depuis le début, avec l'idée que si l'outil, il est sympa à utiliser pour le dirigeant, il va l'utiliser non pas pour faire plaisir à son expert comptable, mais parce que lui-même, il va gagner du temps et que, encore une fois, ça va faire gagner du temps aussi à l'expert comptable. Là où nous, notre conviction, c'est que jusque-là, les experts comptables, ils donnaient plutôt à leurs clients des outils qui les aidaient eux-mêmes plutôt que des outils qui aidaient vraiment leurs clients dans la gestion, quoi.
J'interromps 2 secondes cet épisode pour vous demander une big favor. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand chose pour vous, mais pour moi, ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible, et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode.
Là, tu rentres en 2020 sur un marché quand même qui est... c'est un marché réglementé, les experts comptables avec un ordre, une déontologie, des gens qui se font confiance, qui ont des habitudes, qui ont des peurs et des craintes aussi. Parce que tu arrives avec un outil de production, tu dis, bah écoute, toi, tu utilises cette solution depuis 20 ans, qui marche et qui te fait tes bilans et tes comptes de résultats comme, entre guillemets, comme personne. Comment vous avez réussi aussi à rassurer? Parce que j'imagine que d'un point de vue technologique, de développer un outil de production pour les cabinets, c'est pas simple. Il faut mettre beaucoup de briques. Justement, comment vous avez réussi à les rassurer et quels ont été un peu les stades d'évolution pour faire un produit qui tient la route?
Bah, y a pas de secret. Pour moi, la bonne nouvelle, ça a été que les cabinets, en fait, ils étaient prêts à tester. Moi, ma principale crainte au début, c'était que les cabinets me disent « Moi, tu vois, j'ai une usine bien réglée. J'ai pas envie de venir me désorganiser sur 5 dossiers pour faire un pilote de ton outil. » La bonne surprise que j'ai eue, c'est qu'en fait, ils étaient très ouverts à dire « Ouais, ce que tu me présentes, ta vision, c'est intéressant, mais en fait, faut que je teste parce que c'est bien beau, mais faut tester. » Et donc, t'as des, bah, au début, ils ont dit « Je teste, il manque encore ça. » Je pense que ce qui a fait que les cabinets, ils ont continué de tester et qu'ils n'ont pas abandonné en disant « Ton truc, c'est nul », c'est qu'ils ont vu qu'on écoutait leur retour. Premier point. Et ça rejoint ce que je te disais avant, c'est que nous, on n'a pas de préconception. Tu vois, on est là pour mettre l'utilisateur au centre et on va faire ce que l'utilisateur nous dit de faire. C'est pas parce que moi, je pense qu'il faut faire ça que je vais faire ça. C'est l'utilisateur qui a toujours raison. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la vélocité. Bah, s'ils voient que tout n'est pas parfait, mais qu'on écoute ce qu'ils nous disent et qu'on va vite pour sortir de nouvelles fonctionnalités, bah, ils gardent confiance et ils disent « Ok, ils sont pas encore au bout du chemin, mais je fais confiance à cette équipe pour m'aider. » Donc ça, c'est le point principal. Et après, il y a vraiment l'innovation qu'on amène. Enfin, moi, ma conviction, c'est si on refaisait juste un outil de prod historique dans le cloud, honnêtement, il n'y aurait pas un gain énorme pour le cabinet de productivité. Le vrai gain, il vient du fait qu'on a les deux côtés, qu'il y a le côté collaboratif entre le client et le cabinet, que le client, il peut faire du paiement dans son outil PennyN et que ça vient automatiser du lettrage. Qu'il y a de la connectivité, donc qu'on récupère du flux de façon automatisée, qu'il y a de l'OCR qui est nativement embarqué, qu'il y a de la PDP qui est nativement embarqué, maintenant aussi, on va peut-être en parler, mais de l'intelligence artificielle, pas mal. Et donc, c'est tout ça. On ne fait pas que reproduire à l'identique un outil de prod historique, on amène aussi plein d'innovations. Et donc, c'est ça, je pense, où les utilisateurs se sont dit, OK, je vois plein de gains potentiels, mais on est d'accord, avant tout, pour te faire gagner en productivité, il faut que je t'en fasse pas perdre. Ça, c'est la première condition. Et nous, c'est ça notre plus gros challenge depuis le début. Parce que, comme tu l'as dit, il y a une profondeur fonctionnelle dans un outil de prod qui est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tellement de développeurs. C'est qu'il faut d'un côté reconstruire toute la profondeur fonctionnelle de l'outil de prod et de l'autre, avoir un outil sympa qui est aussi tout en un côté client. Parce que sinon, si tu as un outil de prod super mais que ton outil client, il est nul, en fait, le client va pas l'utiliser, il va continuer d'utiliser ses outils à lui, où tu n'auras pas l'expérience sans couture qui te fait vraiment gagner en productivité, toi, cabinet, quoi.
D'ailleurs, je fais un espèce de petit retour d'expérience qui peut être aussi intéressant. Alors moi, les chiffres, c'est, je sais les maîtriser, je sais les lire, je sais les faire, mais c'est vrai que souvent, le cordonnier, c'est un peu le plus mal chaussé et j'avais pas réussi à trouver un outil qui me plaisait bien. Et je me rappelle à l'époque de PNL, je pense en 2020 ou 2021, j'avais discuté avec Edouard pour utiliser cette solution parce que moi, j'étais à la recherche d'un truc qui puisse vraiment m'aider. Et je dois avouer quand même que vous avez réussi une belle prouesse, c'est que, en tout cas, à titre perso, moi, j'arrive à faire des situations mensuelles à J+5 sur 3 sociétés. Et c'est assez facile parce qu'en utilisant un peu l'automatisation et en comprenant aussi, moi, entrepreneur, le besoin du cabinet sur sa prod, bah, du coup, ça me permet aussi de faire un travail qui va vachement l'aider. Et lui, en fait, il a vraiment beaucoup moins de taf à réaliser sur la production de la comptabilité. Après, j'ai aussi cette petite avantage, c'est que moi, je maîtrise aussi la...
Tu connais le côté cabinet aussi, quoi. Ouais.
Donc, je sais que si je fais bien mes devoirs, bah, lui, globalement, il n'aura pas beaucoup de travail à faire.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Ouais, exactement. Exactement. Bah, du coup, tu lances une brèche là sur la partie IA. Je pense que quand même, des outils comme PennyLane, enfin, moi, je le vois, côté étudiant, côté marché ou des professionnels ou des futurs professionnels s'inquiètent un peu de ce genre d'outils parce qu'ils se disent, mais en fait, à quoi bon étudier dans cette industrie si en fait, mon métier sera remplacé? C'est quoi un peu ta lecture de la proposition de valeur de PennyLane? En gros, ça fait un peu flipper, tu vois, sachant que vous n'êtes pas les seuls à faire ça.
Alors moi, je suis convaincu, encore une fois, je me rapporte à mes entretiens initiaux avec les dirigeants d'entreprise, que personne ne veut remplacer. Je suis convaincu que l'expert comptable, il va pas disparaître. Il y a toujours de la complexité. Tu vois, j'étais il y a 2 jours faire une conférence avec un cabinet BDO sur la facture électronique. En fait, il y a un nombre de cas particuliers. Tu vois, sur une salle, il y avait 100 clients de BDO dans la salle. En fait, t'as déjà 15 cas particuliers. Donc, je crois pas au fait que l'expert comptable sera remplacé. Je crois au fait qu'il y a quand même un risque. On va y venir. Et pour moi, c'est pas tant l'IA. Hein. C'est le vrai risque, c'est la facture électronique. L'IA, c'est plus une opportunité. Nous, on voit l'IA comme un moyen d'augmenter les collaborateurs. Donc, on bosse tous nos investissements côté IA sont côté cabinet, pas côté client. Pour en gros construire des chatbots pour les collabs, pour que les collabs ils puissent plus facilement trouver des réponses à leurs questions, que ce soit des réponses métiers, que ce soit des réponses sur l'utilisation de la plateforme, que ce soit des réponses sur la donnée d'un dossier. L'idée c'est que tu puisses poser une question en langage naturel et qu'on te réponde tout de suite, sans que tu aies allé chercher l'info à gauche à droite. Mais pour moi le vrai sujet c'est la facture électronique, qui pour le coup va quand même forcément, faut pas se voiler la face, mettre en péril certains pans du business model des cabinets, parce que bah on sait qu'aujourd'hui il y a une grande partie des honoraires qui étaient justifiés par la saisie et que cette saisie elle va disparaître et elle va disparaître plus ou moins du jour au lendemain, hein. Et donc pour moi en tant que cabinet c'est ultra clé que demain tu viennes pouvoir proposer plus de services à plus forte valeur ajoutée à tes clients si tu veux maintenir ou augmenter tes honoraires. Sinon on le sait. Enfin, ce serait encore une fois se cacher les yeux que de dire le contraire. On voit qu'en Italie, il y a une pression à la baisse sur les honoraires là où la facture électronique est passée. Et donc, moi, tout l'enjeu, c'est comment on aide les cabinets à se préparer à ce monde de demain. Et du coup, ce monde de demain, déjà, il faut que tu sois sûr que la facture électronique, pour toi, cabinet, ça va vraiment te faire gagner du temps et pas t'en faire perdre. Et t'as quand même un sujet où on sait que facture électronique, c'est un premier pas, mais dans un deuxième temps, l'administration, elle va pré-remplir la TVA. Et en fait, quand elle va pré-remplir la TVA, tu vas te retrouver dans des cas, la TVA, elle va être pré-remplie à partir de données déclaratives de ton client, qui va dire facture payée, pas payée. Si tu as un système IT où toi, tu as ton outil de prod en tant que cabinet, ton client, il a un outil de gestion, il y a une PDP, le client, il dit facture payée, et que cette info-là, elle ne se retranscrit pas dans ta compta, parce que facture payée, toi, ton outil de prod, ça ne veut rien dire pour lui. Il a besoin de savoir facture payée par telle transaction. Mais ça, ce n'est pas dans le cahier des charges de la facture électronique. En fait, tu vas te retrouver dans des cas où l'État aura dit ton client doit payer tant de TVA. Ton client dira moi, je ne suis pas d'accord. Et toi, tu auras encore un autre truc dans ton outil de prod. Donc, pour moi, le truc numéro 1, c'est que les trois, là, l'OD de ton client, ton outil de prod, la PDP, soient toujours synchronisés. Tout cabinet doit se poser la question, est-ce que j'ai, avec mon stack, est-ce que je suis prêt pour ça? Sinon, en fait, la facture électronique va te faire perdre du temps. Et deuxièmement, c'est est-ce que j'ai de la donnée fraîche de mes clients à jour en temps réel, bien structurée, pour pouvoir demain leur donner du conseil pour pouvoir leur faire du full service et les aider à, je sais pas moi, faire des paiements fournisseurs, les aider dans leur facturation, faire des paiements pour eux, avoir de la donnée pour faire du reporting, etc. Et on y viendra peut-être du coup sur le marché qui bouge. Moi, je suis convaincu que si toi, en tant que cabinet, c'est pas toi qui équipe ton client d'un outil de gestion, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et ce quelqu'un d'autre, a priori, il n'aura pas ses intérêts alignés avec toi. Et du coup, il peut te dire ce qu'il veut, ce quelqu'un d'autre. Il y a de fortes chances qu'il n'ait pas des API qui soient parfaitement connectés avec ton outil de prod et qu'en fait, du coup, soit tu sois demain à perdre du temps, soit tu sois demain à avoir de la donnée qui ne soit pas forcément aussi précise que tu l'aimerais pour te faire derrière du conseil. Et donc, pour moi, le risque principal pour un expert comptable et pour Penny Lane, hein, c'est que demain, si l'expert comptable n'a pas bien équipé son client, il soit marginalisé à un rôle de réglementaire, à faire des liasses, faire des checker les TVA, auquel cas son client il sera prêt à le payer beaucoup moins que ce qu'il paye aujourd'hui, et auquel cas moi, Penny Lane, je serais réduit à vendre à l'expert comptable un outil de pur outil de liasse fiscale, et où moi je gagne aussi moins ma vie là-dessus. Donc pour moi, j'ai un enjeu, et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu fais, Nicolas. Pour moi, il y a un enjeu énorme à faire que l'expert comptable il soit tout sauf marginalisé à ce rôle de réglementaire et qu'il prenne d'autant plus ce rôle de médecin de famille. Et pour moi, enfin, d'un côté, c'est un risque, cette facture électronique, mais de l'autre, c'est une opportunité magnifique pour vraiment revenir au centre des flux de tes clients et avoir ces flux en temps réel, 100% fiables, et pouvoir te reconcentrer sur ce rôle d'analyse et de conseil d'accompagnement de ton client. L'enjeu qu'il y a derrière, et sur lequel toi, tu bosses beaucoup, c'est que par contre, il y a un challenge monumental de formation au sein des cabinets et des jeunes, hein, qui rentrent dans le métier, parce que, comme tu le dis, c'est un métier un peu nouveau. Le métier de saisie, il disparaît. Faut encore une fois, faut être OK là-dessus. Et donc, pour moi, les métiers de demain dans le cabinet, t'as un métier, c'est des gens qui vont devenir encore plus pointus sur des sujets. On en parlait tout à l'heure, un peu le contributeur individuel qui va devenir spécialiste des cas particuliers de la facture électronique pour te dire dans quel cas soit tu tombes, spécialiste en fiscalité, etc. Ça, ce sera une partie des gens là-dessus. Je pense que tu auras une autre partie des collabs qui basculeront plus sur des rôles de RAF externalisés. Et que du coup, tu as des clients qui vont demander à leur cabinet de faire plus du rôle d'assistant administratif, réexternaliser ça en fait. Tu as également des collabs qui vont faire plus du rôle de DAF externalisé, contrôle de gestion externalisé. Je pense aussi quand même que tu vas avoir une partie des entreprises peut-être un peu plus grosses qui vont réexternaliser leur compta. Parce qu'en fait, ce qui poussait aujourd'hui une boîte à internaliser sa compta, c'était d'avoir de la donnée à jour en temps réel. Avec la facture électronique et avec des outils comme Penny Lane, en fait, même si tu externalises, tu as quand même de la donnée à jour en temps réel. Donc je pense que tu as pas mal de boîtes, on sait tous que c'est difficile de recruter, malgré tout le boulot que tu fais, c'est difficile de recruter des comptables, tu as pas mal de boîtes qui vont réexternaliser un cabinet pour mutualiser tout ça. Donc je pense que ça va être ça, les rôles de demain, les métiers de demain. Encore une fois, ma principale crainte, moi, ce serait que les experts comptables, parce qu'ils équipent pas assez tôt leurs clients, qu'ils les enferment pas dans leur écosystème, qui se retrouvent disruptés et marginalisés, notamment par, on va en parler, les néobanques. Je pense que si c'est pas l'expert comptable qui équipe son client d'un outil de gestion, la forte probabilité, c'est que ce soit le banquier qui le fasse, alors que ce soit une banque tradie ou une néobanque. Et donc, il y a un vrai enjeu à anticiper et à pas attendre, parce que sinon, votre client, il prendra son outil de son côté et il vous dira un peu débrouille-toi, quoi.
Merci pour cette analyse. J'ai fait un podcast avec une ancienne associée France chez Mazars qui s'appelle Marie Gandouet, le géant.
Je crois qu'elle utilise Penny Lane.
Ah, c'est possible. Et donc, je l'ai reçue sur le podcast et en fait, je lui posais cette question parce qu'elle a quand même une grosse expérience et c'est une tête. Et il y avait un truc qui m'a marqué dans son épisode, c'est qu'elle m'a dit l'expert comptable, il aura toujours des problèmes à résoudre pour les entrepreneurs. J'ai trouvé que cette phrase, elle était assez forte parce que, en fait, les problèmes qu'un entrepreneur rencontre, et je parle pas de la partie produit, commerce, mais dans la gestion administrative, financière, légale, enfin, là, on est sur le champ des possibles, il est assez incroyable, en fait.
Ouais, et puis même récemment, j'ai un expert comptable qui m'a dit, en vrai, des problèmes, il y en a dans le monde, quoi. En vrai, t'as le Covid, t'as la guerre en Ukraine, enfin, il y a tout le temps des nouveaux problèmes, quoi.
Exactement.
J'ai pas de soucis sur le fait qu'il y ait, ouais.
Exactement. Et en fait, là, c'est vrai que le sujet qui se pose aussi, c'est dans le système un peu éducatif qu'on peut retrouver. C'est vrai que est-ce que l'individu en lui-même, celui qui est curieux, qui a envie, il pourra s'en sortir. Mais celui qui se laisse un peu driver et qui développe pas ses compétences sur des choses très spécifiques, si je parle du M&A, de n'importe quoi en fait, dans la tech, etc., pour accompagner les clients, là, ça va être un peu plus difficile. Donc, je pense que ces enjeux, moi, je les vois doubles aussi. Hein. Là, il y a cette facture électronique, comme tu le dis à juste titre. Et puis, il y a cet enjeu de développement des compétences, revoir un peu les choses. J'ai vu quelques études qui sont sorties du Conseil national, là, récemment, qui étaient aussi intéressantes sur l'évolution des parcours de formation dans la filière. Du coup, toi, comment tu vois un peu la compétition, justement, si on mentionne un peu les néobanques, je vois que Conto, ils viennent de racheter Regate. Donc, Conto, ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont sur le... Enfin, pas très longtemps, mais qu'ils ont quand même bien innové. Et c'était un bon produit, tu vois. En tout cas, c'est ce que je pense. Comment tu vois un peu la compétition entre à la fois les acteurs historiques, à la fois des acteurs un peu comme Penny Lane sur la même verticale, et puis ces acteurs qui rachètent des boîtes justement pour, j'imagine, prendre la brique production et puis la brique données bancaires.
Nous, nos concurrents principaux hein, aujourd'hui, c'est les acteurs historiques outils de production comptable. Hein. Ce qui est sûr, c'est que je vois un changement dans le marché. On va dire que pendant quelques années, c'était « Ah, c'est sympa ce que vous faites Penny Lane, mais... ça fait 20 ans que je bosse sur mon outil, il marche bien. Voilà. Là, je vois qu'il y a un vrai changement depuis le début de cette année où tous les cabinets avec qui je parle ont décidé, en gros, qu'ils quittaient... beaucoup de cabinets avec qui je parle ont décidé qu'ils ont acté que leur outil historique ne répondrait pas à leurs besoins dans le monde de demain. Et du coup, il y a une vraie accélération. Et du coup, la question devient, quel nouvel outil je vais prendre ? C'est plus est-ce que je reste sur l'ancien ou est-ce que je vais sur un nouveau, c'est quel nouveau je vais prendre. T'as quatre nouveaux acteurs pour les citer, donc Mainisoft, Income, Time, Penny Lane, hein, c'est les quatre souvent qui reviennent. Et après, du coup, chacun a ses forces, ses faiblesses. Pour moi, tu en as deux, donc Income et Mainisoft, qui sont des outils c'est des outils de prod cloud-based. Par contre, ils n'ont pas, ces gens-là, dès le début, mis un outil client. Et donc là, il y a une vraie différence fondamentale philosophique. Et nous, on est convaincus depuis le début que le gain de productivité du cabinet, il vient du fait que le client fait la gestion dans son outil de gestion et que ça se retranscrit côté cabinet. Donc là, soit le cabinet, il est d'accord avec nous, soit il n'est pas d'accord avec nous, entre guillemets, mais tu as une vraie différence philosophique. Et juste pour repréciser, du coup, je pense que ces acteurs-là, ils vont peut-être essayer de racheter des briques clients, ce genre de choses. Mais moi, je suis convaincu depuis le début que tu peux pas rattacher deux briques qui n'ont pas été construites pour être attachées. Si tu as des gens qui ont construit un outil de gestion, ils l'ont architecturé forcément de façon différente qu'un outil de prod. Et nous, la différence, c'est que depuis le premier jour qu'on a commencé à construire Penny Lane, on a toujours pensé aux deux côtés et qu'à chaque fois qu'un ingénieur a construit une brique d'un côté ou de l'autre, dirigeant ou expert comptable, il s'est demandé à quoi ça doit ressembler de l'autre. Et c'est ça, les acteurs historiques, ils ont souvent des briques des deux côtés, ils n'ont jamais réussi à les raccrocher. Et ensuite, tu as effectivement Time, qui est celui qui a le positionnement le plus proche de nous. Historiquement, Time, c'est la solution qui a été développée par Arnaud Doyon, je crois que tu as reçu sur ton podcast,
ouais, bien sûr.
Qui a son cabinet Number, l'expertcomptable.com, tout ça. Et du coup, je pense que historiquement, Time, ça a été développé, suroptimisé, on va dire, pour les indépendants, puisque c'est ça la cible de Number et de l'expertcomptable.com. Maintenant, bien sûr, il essaie de s'étendre à d'autres types de clientèle. Mais du coup, lui, il vient. Nous, on est un outil plus généraliste depuis le début. Peut-être que du coup, historiquement, par contre, sur la cible indépendant, on était peut-être moins bon que pouvait l'être Time. C'est chacun, encore une fois, il n'y a pas un outil parfait. Hein, chacun a ses forces, ses faiblesses. Nous, notre vocation, c'est d'être l'outil le plus généraliste possible. On veut que demain, un cabinet puisse gérer tous ses dossiers de A à Z sur l'outil, qu'il puisse venir pour certains dossiers rajouter des briques. Sinon, on fait pas assez bien le boulot. Voilà. Ça, c'est côté outil de prod. Par contre, moi, je pense que notre concurrent, le vrai concurrent à nous et aux experts comptables à long terme, ce sont effectivement les banques ou les néobanques. Et je pense que le plus sérieux, c'est Conto, que tu as mentionné. Tout simplement parce que si tu regardes, Conto, il a commencé par la banque, mais il a développé ensuite de la gestion. Au début, tu n'avais qu'un compte pro. Après, il est venu rajouter un éditeur de factures, de la gestion des factures d'achat, les notes de frais, les indemnités kilométriques, tout ça, tout ça. Je suis pas sûr qu'il va faire un outil de prod. Honnêtement, pourquoi il le ferait ? Parce que c'est très compliqué, c'est beaucoup de boulot et beaucoup, entre guillemets, d'emmerde pour lui. Lui, entre guillemets, il n'en a pas besoin. Pourquoi il n'en a pas besoin? Parce qu'il a une machine d'acquisition client qui fonctionne. Il met énormément de sous chez Google, en pub dans la rue. Il achète des leads à des différents acteurs. C'est des millions et des millions et des millions par mois dépensés en acquisition client. Et par contre, il n'est pas sur un modèle de partage de revenus avec les gens derrière. Moi, j'ai parlé avec Conto au moment où nous, on a choisi de bosser avec Swan sur notre compro. J'ai parlé également avec Conto qui me disait « Pourquoi tu ne mets pas le compro Conto dans Penny Lane plutôt que de prendre Swan ?» Et moi, je leur disais « Qu'est-ce que tu me proposes ?» Et ils me disaient « Je t'achète des leads. » Moi, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas là pour vendre des leads à Conto. Je suis là pour bosser avec un partenaire et partager cette valeur avec Swan, avec les cabinets. Et donc, c'est un modèle assez différent. Et pour moi, Conto aura toujours, c'est pour ça que j'ai pas trop peur, entre guillemets, de leur mouvement ou avec Regat. Pour moi, Conto, par définition, aura toujours un conflit d'intérêts avec les cabinets, n'aura jamais ses intérêts parfaitement alignés avec ceux des cabinets, parce que son modèle d'acquisition est un modèle fondamentalement direct et qu'il va toujours favoriser l'entreprise qui lui paye la facture à la fin du mois. Là où moi, Penny Lane, je vais toujours favoriser avant tout le cabinet, parce que moi, tous les sous que Google y met, que Conto met chez Google, moi, je les mets pour construire un outil pour le cabinet et pour que le cabinet aligne ses intérêts avec moi et ait intérêt à aller équiper lui aussi ses clients pour lui gagner en productivité et je partage ce gâteau avec les cabinets. Donc, fondamentalement, c'est pour ça que je suis serein, ce que je disais dans mon post cette semaine, je suis serein sur notre positionnement parce que mécaniquement, nos intérêts sont toujours plus alignés. Si toi, aujourd'hui, tu as un cabinet et que tu vas faire un dépôt de capital sur Conto pour ton client, aujourd'hui, ça se passe bien, mais qui te dit que demain, Conto va pas racheter, Indy, pour proposer à ton client petit de faire sa compta tout seul? Parce qu'aujourd'hui, il gagne 9 euros par mois sur son client, et peut-être que demain, avec Indy, il pourra gagner 30, 40 euros par mois. Moi, je peux pas faire ça. Parce que moi, tout mon business vient des cabinets. Moi, si je faisais ça, je coupe la branche sur laquelle je suis assis, et donc, j'ai aucun intérêt jamais à faire ça. Conto, tu sais pas. Encore une fois, je dis pas qu'ils vont le faire, hein. Mais tu sais pas. Et de même, dès qu'ils construisent une nouvelle fonctionnalité, ils la construisent avant tout pour les clients. Et puis, dans un temps d'eux, ils vont, quelques mois après, la mettre dans leur API. Si tu prends aujourd'hui, les indemnités kilométriques, si ton client fait ses ICA sur Conto, en tant que cabinet, bon courage, hein, tu vas aller à la main, télécharger ton ICA et l'importer dans ton outil de prod. Tout simplement parce qu'ils ont avant tout rajouté l'ICA pour le client. Nous, quand tu as une fonctionnalité qui sort, tu es sûr que dès le premier jour, elle sort, elle est directe. Et côté client et côté cabinet, parce que c'est les cabinets qui nous amènent nos clients, donc on ne peut pas sortir un truc qui aide le client mais qui n'aide pas le cabinet. Et par contre, je pense qu'il est important d'avoir en tête, c'est que la valeur du marché pour un éditeur, elle est côté client. N'importe quel éditeur qui vous dira le contraire, il vous ment. Aujourd'hui, l'estimation, hein, c'est que les cabinets d'expertise comptable dépensent à peu près 200 millions d'euros par an en France en outils. Les entreprises françaises dépenses, alors si tu additionnes la valeur outil de gestion plus compte bancaire, etc., on parle de plusieurs milliards. Et donc, si en tant qu'éditeur, tu as envie de bien gagner ta vie, il faut que d'une manière ou d'une autre, tu ailles toucher à ces plusieurs milliards. N'importe quel éditeur qui vous dit « moi, je vais uniquement vendre de l'outil de prod », c'est malheureux, mais il n'aura pas les moyens d'investir, il gagnera moins bien sa vie, et donc son outil, mécaniquement, à terme, sera moins bon. Aujourd'hui, si tu prends un autre acteur, des acteurs historiques, ils ont beaucoup plus de clients que moi, mais moi, je fais déjà autant de revenus ou je ferai plus de revenus qu'à la fin de l'année parce que j'arrive à monétiser à la fois l'outil de prod et l'outil de gestion. Je partage en plus le revenu de l'outil de gestion avec les cabinets, mais du coup, mes unit economics, mon panier moyen, il est meilleur et ça fait que je peux réinvestir plus en tech et faire des meilleurs produits, etc. Donc, c'est pas que moi je veux aller piquer les clients, chercher les clients, c'est juste la valeur. L'expert comptable, il est prêt à payer quelques euros par mois par dossier. Et moi, j'ai internalisé ça, j'ai internalisé dans mon business plan avec mes investisseurs. Je sais que jamais je bougerai le prix pour l'expert comptable. Parce que j'aurai encore une fois aucun intérêt à le faire. Si je fais ça, les experts comptables vont être super mécontents. Toute la valeur, elle est comment on va prendre de plus en plus de valeur chez les clients en partageant ce gâteau avec les experts comptables, en sortant tout le temps de nouvelles fonctionnalités. Il manque encore plein de trucs, hein. Je fais pas de gestion de stock. Demain, je peux peut-être bosser avec des éditeurs d'outils métiers, faire du financement, faire du paiement. Enfin, il y a une infinité de choses qu'on peut faire côté client en plus pour aller capter plus de valeur. Et Conto, du coup, il est nativement sur cette partie côté client. Et donc, mécaniquement, oui, on est ce qu'on appelle frenemy. C'est-à-dire que t'as, enfin, on est convaincu, je pense, que sur certains types de clients, ils voudront tout en un. Si une TPE, elle a 30 balles par mois à mettre en outils de gestion, outils admin de manière générale, si elle en met déjà 20 chez Conto, il n'y en a plus que 10 pour moi. Si elle en met 20 chez moi, et on pense qu'elle veut autant que possible avoir un seul outil. Après, ça ne veut pas dire qu'on va se faire la guerre. Aujourd'hui, on a une super intégration avec Conto, elle va rester comme ça. Le marché, il est assez grand. Mais nous, notre positionnement, c'est d'être du côté des experts comptables. On pense que nos intérêts sont naturellement alignés. Et effectivement, du coup, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, s'il y a un client, un expert comptable qui veut utiliser Conto, il n'y a pas de souci. On a une super intégration, on va pas bloquer quoi que ce soit. Chacun est libre de choisir. Mais je pense que d'un point de vue intérêt, ils sont plus alignés, quoi.
Masterclass, d'habitude c'est des masterclass sur des sujets financiers, là c'est masterclass stratégie. Arthur, merci pour toute cette transparence et d'avoir partagé un peu cette vision et en fait cette captation de valeur. Je pense que pour nos auditeurs c'est hyper clair, trop bien, cool. Alors c'est assez marrant parce que tu vois, moi j'ai reçu aussi Com de le CEO de chez Indie sur le podcast, et donc c'est aussi intéressant d'avoir un peu la lecture de chacun sur le marché. Au moins, en tout cas, les auditeurs qui écoutent ce format et ce podcast peuvent avoir une vision et un discours de chaque acteur de l'écosystème. Trop bien. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur cette partie vision? J'aimerais aussi un peu comprendre, c'est quoi un peu ton rêve, toi, personnel, avec cette boîte Pennyline? Je vous ai souvent entendu dire, c'est une boîte dans laquelle on veut rester longtemps, mais c'est quoi ton rêve intrinsèque?
Moi, mon rêve, c'est d'avoir de l'impact, d'aider des centaines de milliers, des millions d'entreprises, TPE, PME, et leurs experts comptables à atteindre leurs objectifs. Je pense que c'est un des rares marchés de cette taille-là et de cette importance-là où les Américains peuvent pas venir parce qu'on a cette complexité comptable européenne. Et du coup, je trouve que c'est aussi un sujet de souveraineté européenne que ces données-là, elles restent en Europe. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse, nous, demain, si possible, alors déjà on va pas se brûler les ailes, on veut déjà bien en opérer en France, mais idéalement demain on aimerait bien aller reproduire ce qu'on fait aujourd'hui en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, autant de marchés où tu as un peu la même configuration avec des acteurs historiques très bons, très profonds, mais assez vieillissants en termes de techno, très concentrés sur le côté comptable, mais non pas d'accès côté client. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à terme, je pense qu'on sera amené à se faire concurrence avec peut-être d'autres acteurs. Tu en as un qui est l'acteur historique norvégien qui s'appelle Visma, qui vient nous titiller aussi en France. Alors, Visma, c'est une boîte qui appartient à un fonds de private equity anglais. Donc, tout comme Cegid appartient à un fonds de private equity américain, là, c'est un fonds de private equity qui possède Visma. Du coup, qui a une stratégie assez agressive, qui rachète plein de boîtes, ils rachètent en moyenne 50 entreprises par an, Visma. Ils veulent rentrer en bourse, donc je pense qu'ils veulent montrer qu'ils arrivent à aller dans d'autres pays. Et nous, on espère demain aussi aller se battre contre eux, peut-être en Belgique, comme je disais, en Allemagne ou autre. Et on pense que normalement, la compta française, elle est assez complexe. Et donc normalement, si tu réussis bien en France, tu as des chances. Et ce serait, enfin moi, ça me ferait plaisir, ça me rendrait fier qu'il y ait un acteur français qui devienne une référence en Europe, un peu comme Doctolib a pu le faire et aujourd'hui est devenu le leader en Allemagne également. Ce serait cool qu'une boîte française devienne le leader européen sur ce domaine-là. C'est un marché, encore une fois, qui est énorme. Aujourd'hui, le plus gros acteur éditeur logiciel en Europe, c'est SAP, qui est allemand, qui est l'ERP pour les grosses boîtes. Moi, je pense qu'il y a de la place pour faire le SAP des petites boîtes, entre guillemets, et des experts comptables. Et normalement, c'est une boîte qui peut être aussi grosse en termes de taille de marché. Donc c'est ça l'ambition et du coup c'est assez infini. C'est pour ça qu'on a choisi ce marché, c'est que tu t'ennuies jamais, il y a toujours des nouvelles choses à faire. Moi je sais que c'est ma dernière boîte. C'est une débauche d'énergie incroyable de monter une boîte comme ça. Je sais que j'en referai pas d'autres et du coup je veux tout donner pour celle-là et rester aussi longtemps que possible. Je pense on a peut-être déjà parlé lors du premier épisode, mais nous on a bien vendu notre première boîte. On a notre matelas avec mes associés, avec mes cofondateurs. Donc moi, ça ne change pas ma vie si demain je touche un gros chèque de n'importe qui rachèterait. Donc c'est pas l'objectif, quoi. L'objectif, c'est vraiment pas de vendre PNL. Et j'ai 34 ans, donc je compte pas non plus partir à la retraite demain. Je m'ennuierais, concrètement. Et donc j'ai quand même 20-30 années devant moi pour développer PNL. C'est ça l'objectif, quoi, avec mes associés, d'en faire une boîte grande qui ait de l'impact. Et en vrai, si tu réfléchis, tu peux faire des choses vraiment folles à terme. Hein. Je dis pas que c'est ce qu'on veut faire, mais tu peux dire que tu pourrais... si tu as toutes les boîtes européennes qui utilisent la solution, tu pourrais demain les aider à mieux acheter, à acheter plus local, consommer moins de moins d'impact carbone. Tu peux même, en vrai, à terme, concurrencer un Amazon dans ce sens-là. Tu vois, si tu les aides à mieux acheter, c'est assez infini ce que tu peux faire. On n'a pas vraiment un objectif en soi. On veut atteindre tant de parts de marché, tant de chiffre d'affaires ou autre. C'est juste avoir autant d'impact que possible.
Du coup, tu dis que c'est comme une grosse dépense énergétique. J'ai la sensation, ton rôle aujourd'hui. À quoi ressemble ta vie d'entrepreneur chez Penny Lane? Vous êtes passé entre guillemets de 0 à 400 salariés. Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien?
Alors moi, j'essaie de trouver quels sont les sujets les plus importants, les plus chauds du moment et d'aller dessus. Parce que moi, j'ai la chance, on est 7 cofondateurs, donc 5 qui viennent de la première boîte, plus Edouard, dont tu as mentionné tout à l'heure, plus Alexandre. Alexandre, pour info, c'était notre expert comptable. Et du coup, il a lâché son cabinet pour devenir cofondateur de Penny Lane. C'est lui qui gère toute la partie déploiement et support des cabinets partenaires aujourd'hui. Et donc moi, j'ai la chance que comme on est 7, chacun de mes cofondateurs, il gère un peu un département. Alexandre, il gère la partie support, déploiement de cabinet. Edouard, il gère la partie équipe commerciale. J'ai Tancred qui gère la partie produit. Thierry et Quentin qui gèrent la partie tech et tout. Donc moi, j'ai la chance de pas avoir d'équipe à gérer au quotidien. Et donc, j'estime que mon rôle, c'est un, être celui qui garde la vision d'ensemble. Parce que comme chacun a son équipe, ton équipe, elle grossit mécaniquement. Tu réfléchis un peu plus en silo de c'est quoi les problèmes de mon équipe. Et tu oublies forcément un peu les autres équipes et comment tu t'inscris dans le cadre plus large. Moi, j'ai la chance et le devoir d'avoir cette vision d'ensemble et de pouvoir dire, attention, là, on parle un peu trop de ce sujet alors que c'est pas un sujet cyclé. Faut plus parler de ça. Attention, on a un peu trop de ressources ici. Il faut les basculer un peu plus là. Ça, c'est mon truc numéro un. Et je pense que pour avoir cette vision d'ensemble, et après, c'est un peu mon style aussi, je descends très profond dans les sujets, dans des sujets un peu précis. Mais comme ça, je sais exactement comment ça se passe sur le terrain. Tous les jours, il n'y a quasiment pas un jour qui se passe sans que je parle à un cabinet, sans que je vois les tickets que nos cabinets nous font monter, les cabinets, les clients. Et du coup, j'ai une vraie idée de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Après, j'ai aussi un job un peu d'aller éteindre des incendies. Tu vois, quand tu as un truc, souvent quand on a une boîte qui grossit comme ça, les challenges, ils viennent du fait que c'est les silos dont je te parlais. Tu vois, aujourd'hui, on a une organisation qui gère les cabinets, une autre qui gère les entreprises. Tu as plein de trucs qui sont à cheval entre les deux. Parce que un cabinet, quand il vient, il faut qu'on onboard les clients du cabinet. Et donc, c'est comment on s'assure qu'on ait la bonne organisation pour que ce soit bien huilé et qu'on soit aussi efficace que possible. Et puis, je vais du coup beaucoup à la rencontre de cabinets pour s'assurer qu'on réponde bien à leurs besoins, qu'on comprenne bien ses besoins. Mes journées ne se ressemblent pas trop parce qu'en fonction de l'actualité, en fonction de la saison, il y a un moment de l'année où ça va être plus... aller aider les cabinets dans leurs projets de changement, etc. Vers la fin de l'année, c'est plus comment on optimise qu'on soit bon dans l'exécution des migrations, parce qu'on a ce truc très saisonnier où, en gros, entre juillet et décembre, il faut migrer tous les cabinets avant la prochaine période fiscale. Donc là, ça dépend pas mal de tout ça.
Comment tu expliques la croissance qui est assez forte? Si je reprends un peu les acteurs que tu as pu nommer, j'ai pas la sensation qu'ils ont été aussi vite que vous dans l'acquisition de cabinets. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que vous avez réussi un peu plus vite que les autres?
Pour moi, c'est le produit. L'exemple que je prends toujours, alors, qui aujourd'hui n'est plus... Ils ont des sujets, ils ne sont plus trop adorés, mais s'il a eu. Nous, quand on a commencé Penny Lane, tous les cabinets nous disaient « Moi, j'ai switché sur s'il a eu pour la paye parce que le produit, incroyable. » quoi. Et s'il a eu, de ce que je sais, n'avait pas beaucoup de commerciaux, ne faisait pas beaucoup de marketing. Pour moi, on est dans un business où tu peux pas mentir. Les gens, ils utilisent ton produit 8-9 heures par jour. Et donc, nous, je pense qu'on est de fait aujourd'hui la plus grosse équipe R&D produit. Et du coup, on a le produit, je pense, le plus complet. Il nous manque encore des trucs. On a de derniers kilomètres côté révision, déclaration éventuellement sur certains points. Mais si tu regardes dans l'ensemble, la couverture fonctionnelle à la fois côté cabinet client, je pense que c'est la plus complète. Et on continue d'être ceux qui avançons le plus vite. Et donc, c'est ça. Pour moi, c'est avant tout le produit et l'accompagnement. Parce qu'un produit tout seul, ça fait rien. C'est ensuite, est-ce que tu aides bien les cabinets dans leur gestion du changement, tu les aides à définir une stratégie, comment ils forment leurs collabs, comment ils forment leurs clients, Et donc, le fait qu'on ait des équipes, souvent des anciens du métier, hein, qui sachent répondre aux questions, qui comprennent le métier, qui sachent répondre aux questions des cabinets et des collaborateurs.
C'était quoi ta vision à l'époque, avant d'attaquer ce marché, de la comptabilité? Et comment ton image de cette profession, elle a évolué à force de pouvoir la côtoyer tous les jours?
L'image que j'avais, je te disais tout à l'heure, moi j'avais peur que les cabinets ne soient des trucs ultra processés et qu'ils veuillent pas tester des nouvelles choses ou qu'ils me disent « tant que ton truc n'est pas 100% prêt, je veux pas tester » ou autre. Moi j'ai découvert que les experts comptables, c'était avant tout des chefs d'entreprise. Avant d'être comptable, ils sont chefs d'entreprise. Et ils ont des vraies problématiques, bah, comme on disait, de stratégie, de recrutement, c'est entre guillemets un business pas comme un autre, mais t'as les mêmes enjeux que tes clients en fait, hein, chef d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal ouvert les yeux. J'ai découvert qu'ils étaient beaucoup plus, enfin pour moi, t'as une image un peu que l'expert comptable, il utilise des vieux outils, etc. Mais pour moi, les experts comptables, ils ont déjà beaucoup poussé l'automatisation. Et c'est ça qui fait aussi que c'est dur de remplacer les outils existants, c'est que même ces outils vieillissants, en fait, enfin, si tu compares un expert comptable à un avocat, l'expert comptable, il est 1000 fois plus en avance sur productivité qu'un avocat. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, l'intelligence artificielle sur la saisie, je pense pas que ça vienne. Alors, il y a l'OCR et tout, mais les nouveaux trucs d'IA générative et tout, je pense pas que ça vienne révolutionner la donne, parce que il y avait déjà plein de règles. Alors, ça coûtait très cher de mettre toutes ces règles en place parce que c'était très manuel. Mais le coût, il a déjà été payé, entre guillemets, quoi. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites pour automatiser. Et c'est pour ça que je pense que le principal gain de productivité, il vient pas de juste faire un meilleur outil de prod. Pour moi, il vient du côté collaboratif et du fait que le client, parce que tu as les flux à la source, tu es capable de les réconcilier, de les lettrer. Parce que je pense pas que tu puisses faire un truc qui rende un collab 1000 fois plus productif que ce que faisaient les acteurs historiques, à proprement parler. Si tu as juste la brique production.
Bah, si l'entrepreneur il fait bien ses devoirs, vraiment, hein, s'il les fait bien, mais du coup, c'est surtout ça qui fait gagner du temps au cabinet.
T'as un énorme enjeu, un rôle nouveau là, qui arrive dans les cabinets, d'onboarder, de bien former ton client à bien faire ses devoirs. Quoi.
Parce qu'en fait, si la copie, elle sera facile à réviser quoi, et à corriger. En fait, c'est un peu ça l'idée. Quoi. C'est un peu scolaire. Mais, et je pense que même pour l'entrepreneur, gamifier un peu son expérience pour le fait qu'il puisse... bien donner les informations et comprendre la valeur qu'il a à le faire, je pense que c'est hyper puissant parce que en fait il va se rendre compte chaque mois qu'en fait il peut avoir des informations qu'il n'imaginait pas forcément, tu vois.
Clairement.
Du coup, toi, tu disais que ce que tu as appris, c'est d'être hyper data-driven chez Booking. C'est quoi ton tableau de bord à toi, du coup?
Mon tableau de bord à moi, c'est une bonne question. Donc nous, on utilise un outil qui s'appelle Metabase,
ouais,
qui est notre outil de data visualisation en interne. Et dans Metabase, on a une infinité de reports. Moi, les chiffres que je suis le plus, c'est le nombre de dossiers sur Penylane, le revenu, chiffre d'affaires. C'est d'abord le nombre de cabinets qui utilisent Penylane, le nombre de dossiers que ces cabinets y mettent, le taux d'activation des clients ajouté par les cabinets. Ça, c'est un truc que beaucoup de cabinets ne suivent pas. Et c'est ce que je dis aux cabinets, il faut regarder parce que quand un éditeur il va venir te faire une démo, il va te montrer l'outil nickel avec plein de données remplies partout et tout. Mais en fait, l'enjeu, c'est ton client, quand il va venir la première fois dans l'outil, soit il va dire « Ah ouais, ça m'amène de la valeur et je vais commencer à l'utiliser, à bien l'utiliser et ça va faire gagner la productivité au cabinet », soit il va jamais revenir. Nous, ce qu'on voit, hein, même aujourd'hui sur un Penylane, le gros drop, il est à la première connexion.
Ah ouais.
Si l'utilisateur, si le dirigeant, il revient une deuxième fois, t'es quasiment sûr que tu l'as déjà gagné.
Ah, je vois.
Nous, comme on est très incentivisé à ce que le client il vienne l'utiliser souvent parce que ça fait que s'il l'utilise, il y a des chances que demain, il souscrive à un outil de gestion et qu'il nous ramène plus de revenus. Bah, nous, on optimise à fond pour que ton client à toi cabinet, il utilise la solution autant que possible. Les autres éditeurs, ils savent pas faire. Hein, parce que c'est un métier en soi. Moi, j'ai des équipes, j'ai une dizaine d'ingénieurs qui font que ça, qui bossent que sur la première connexion. Faire que t'aies les premiers pas qui soient super optimisés, qu'on t'envoie bien le bon mail de relance, que ce soit aussi simple que possible de faire ses premières actions, ta première facture, ton premier import de facture, ton compro. Et donc ça, c'est vraiment c'est des chiffres que je regarde, le taux d'activation. Aujourd'hui, t'as 40% des clients des cabinets qui se connectent tous les jours. Et je te promets que c'est pas le cas avec d'autres éditeurs, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je regarde le revenu. C'est quand même nous un des meilleurs indicateurs de savoir si ça se passe bien ou pas. Et je regarde également le taux d'activation des comptes pro, qui est un truc important du coup pour nous. Aujourd'hui, tu as 30% des entreprises qui utilisent Penny Lane, qui payent un abonnement à Penny Lane, à leur cabinet la plupart du temps, qui ont activé leur compte pro. Dès que tu payes un abonnement, tu as le droit d'avoir un compte pro, ça inclut. Mais après, il faut encore l'activer. C'est assez... toi, tu dois faire KYC, KYB, mettre des sous dessus, commander ta première carte. 30% aujourd'hui qui l'ont fait. Ouais, c'est ça mes principales métriques, entre guillemets, que je regarde.
Super, Arthur. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour cette transparence. Je te laisse un peu ce mot de la fin, savoir qu'est-ce que tu pourrais peut-être partager, peut-être une sagesse ou un apprentissage que tu as eu ces derniers mois ou une espèce de réflexion qui pourrait un peu nourrir la réflexion de nos auditeurs.
Peut-être revenir sur l'histoire de l'intelligence artificielle. Moi, j'étais assez sceptique. Alors, quand je dis intelligence artificielle, Penny Lane, on en fait depuis le début. Là, je parle plus généralement des nouveaux modèles type ChatGPT qu'on appelle de Generative AI. J'étais assez sceptique au début, en me disant c'est un peu la nouvelle lubie, la nouvelle hype. Il se trouve que nous, on commence à avoir des gains de productivité en interne, pour nous, Penny Lane, significatifs. Notamment, nous, on a une grosse 50% de notre staff, c'est les développeurs. Ils utilisent tous maintenant un outil qui s'appelle GitHub Copilot. On leur a tous mis à disposition et j'ai 90% d'entre eux qui sont actifs dessus. J'ai les chiffres d'usage. Et quand tu leur demandes, ils te disent qu'ils gagnent entre 10 et 20% de productivité. Tu t'imagines, sur ma masse salariale développeur, c'est énorme pour moi. Concrètement, c'est GitHub Copilot, c'est dans ton outil de développeur qui est un bloc-notes où tu écris tes lignes de code. Déjà, tu as un truc qui va t'aider à compléter automatiquement tes lignes de code. Et deuxièmement, tu as un chatbot à qui tu peux poser n'importe quelle question. Lui demander qu'est-ce que fait ce bout de code que quelqu'un d'autre a écrit, écris-moi un test pour ce code que je viens d'écrire, etc. Et donc ça, c'est le copilot du développeur. Maintenant, on utilise un autre outil que je recommande pas mal, qui s'appelle Dust, qui permet à n'importe qui, pas développeur, de construire des chatbots pour des outils, pour les usages plus internes. Et pareil, on a commencé à le tester il y a 6 mois, on était un des bêta testeurs. Au début, c'était un peu pourri. Et en fait, au bout de 6 mois, c'est vraiment, vraiment balèze, quoi. Typiquement, moi, je te parlais de Metabase que j'utilise. L'autre jour, j'ai testé, j'ai été dans Metabase, j'ai dit, dans Dust, dis-moi comment calculer le chiffre d'affaires de Penny Lane. Le truc te répond, pour calculer le chiffre d'affaires de Penny Lane, il faut que tu regardes le prix payé par les entreprises, le prix payé par les cabinets, les revenus du compte pro, et voici la requête SQL que tu dois faire pour l'avoir. Et ça, c'est quand même costaud, quoi. Ça fait que n'importe qui peut aller faire des requêtes SQL dans la boîte pour trouver les bonnes données. Ça fait gagner du temps sur, on enregistre les appels, les résumés d'appels, etc. Et donc nous là, on est vraiment convaincus qu'il y a un énorme gain à amener au cabinet, à notre échelle, qui est de faire le copilote du collab. C'est le gros truc sur lequel on investit en ce moment. Je pense que ça va prendre un peu de temps et qu'au tout début, les cabinets vont dire c'est pourri, comme moi j'ai dit il y a 6 mois. Mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça va changer la donne, quoi. J'étais sceptique, ça m'a fait changer la vie et j'espère qu'on va faire pareil avec les cabinets. On lance là cette semaine le premier chatbot dans Penny Lane, puis on va voir du coup comment ça prend. Mais on a beaucoup bossé, c'est assez lourd en termes d'infrastructure à mettre en place pour t'assurer que les données elles sortent pas, que c'est rapide, que ça prend pas trop de temps à répondre, que ce soit bien branché à tes différentes bases de connaissances, etc. Mais voilà, on lance ça et on va voir advienne que pourra.
Super, ça marche. Merci beaucoup Arthur, en tout cas d'avoir participé à cet épisode. Si les gens veulent te retrouver, je mettrai ton profil LinkedIn en description. Merci à toi, en tout cas.
Merci à toi Nicolas.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. J'espère qu'il vous a fait kiffer autant que moi j'ai pris de plaisir à l'enregistrer. Si eh bien vous souhaitez donner de la force, n'oubliez pas les likes, les partages, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.
Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne lesgeeksdeschiffres.com où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance. Ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions d'UNO qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh bien n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.